écoutez bien RFI. Merci si vous nous rejoignez. Il est 4 heures à Paris.
Mathis Limano.
22h à Washington, l'horloge tourne aux États-Unis, plus que quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Près d'un tiers des Américains a déjà voté en anticipé. Ont-ils été convaincus par les arguments de Donald Trump ou Kamala Harris? Les thèmes abordés par les deux candidats lors de la campagne et l'obsession de Donald Trump pour l'immigration en début de journal. À Euronaval, le salon de la défense qui se tient à Paris, les drones sont partout. Explication à suivre quant à leur utilisation militaire ou civile. Et puis, le prix Goncourt décerné à l'écrivain Kamel Daoud pour son livre « Houri ». Jour J aux États-Unis, les bureaux de vote ouvrent dans quelques heures et impossible de dégager un favori dans le scrutin le plus serré de l'histoire. On s'intéresse dans ce journal aux thèmes abordés par les deux candidats pour convaincre tout au long de la campagne, à commencer par la candidate démocrate, David Thompson. Quels ont été ses thèmes privilégiés ?
Kamala Harris a fait toute sa campagne sur le thème de la liberté de choisir, avec la restauration du droit à l'avortement annulé par la Cour suprême en juin 2022, avec trois juges conservateurs nommés par Donald Trump. Cette thématique des droits reproductifs permet à la candidate démocrate de mobiliser l'électorat féminin. Mais si l'avortement mobilise à gauche, c'est l'immigration qui mobilise tout autant les républicains. Comme en 2016, Donald Trump en a fait son principal thème de campagne, accusant les migrants d'empoisonner le sang de l'Amérique. Trump promet d'expulser massivement entre 15 et 20 millions d'immigrés, militarisation de la frontière et construction de camps de détention. Mais la principale préoccupation des Américains reste l'économie après des années d'inflation record. Trump promet de réduire la hausse des prix et les impôts en relançant la production d'énergie fossile pour réduire le coût de l'énergie par deux. Il promet aussi d'augmenter les taxes douanières de 60% sur les importations chinoises. Nous allons devenir très riches avec ces tarifs, promet Trump, qui fait plus que douter les économistes, mais peu importe. Tous les sondages montrent qu'une majorité d'Américains le juge plus crédible que Kamala Harris sur l'économie. David Thompson, Miami RFI.
La démocrate en ultime meeting dans l'état clé des états clés avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie. Donald Trump est lui attendu dans le Michigan, le républicain, vous l'entendiez, qui a concentré ses attaques envers les migrants. Une invasion voulue par Kamala Harris pour le candidat républicain. Une rhétorique xénophobe qui semble porter ses fruits. Selon un sondage, 6 Américains sur 10 souhaitent une réduction de l'immigration. C'est la première fois depuis 20 ans. David Monda est chercheur en sciences politiques à l'Université de New York et pour lui, il faut s'attendre à un durcissement de la politique en la matière après l'élection, surtout si Trump l'emporte, mais pas que.
Une grande partie de la communauté immigrée africaine est terrifiée à l'idée de vivre sous l'administration Trump. Il menace, s'il gagne, de faire du porte-à-porte et d'expulser les gens. Alors bien sûr, on se demande même comment ça serait possible, mais l'idée déjà est tout simplement terrifiante. Sous Trump, il deviendrait aussi très difficile de manière générale pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne de venir aux États-Unis. Mais je dois ajouter, s'agissant de Kamala Harris, que malheureusement, les démocrates ont aussi eu tendance à déplacer le curseur vers la droite en matière d'immigration. Elle a tenu des discours fermes au sujet de la gestion des frontières. Déjà sous Biden, l'administration actuelle a annoncé des quotas en promettant de fermer la frontière sud si le nombre de passages clandestins par jour dépasse un certain seuil. Et puis même dans sa rhétorique, Kamala Harris a durci le ton envers les migrants. Le climat est dans l'ensemble très hostile aux immigrés.
Le chercheur en sciences politiques à l'Université de New York, David Monda, joint par Florence Maurice. Et en Moldavie, on a déjà voté, c'était ce dimanche, vote pour la présidentielle après la campagne électorale la moins démocratique depuis l'indépendance de la Moldavie. L'accusation lancée par Moscou d'ingérence non dissimulée envers l'Occident. La Moldavie a réélu la présidente pro-européenne Maia Sandu aux dépens du candidat pro-russe. Une opposition et des médias russophones réprimés par les autorités moldaves, ajoute sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe.
RFI.
Nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord, tôt ce mardi. Il a été lancé vers la mer du Japon, annonce de la Corée du Sud. Il s'agit de la première démonstration de force du régime de Kim Jong-un depuis l'envoi en Russie de milliers de soldats nord-coréens. L'armement de plus en plus technologique, notamment avec l'utilisation des drones, drones de combat, mais aussi de surveillance des mers et des fonds marins. Ils sont partout sur les stands du salon de défense internationale Euronaval qui a ouvert ses portes lundi près de Paris. Les marines de guerre n'échappent pas à une rapide dronisation de leurs forces et pour répondre à la demande, un grand nombre des drones proposés mis sur une dualité civile et militaire, Franck Alexandre.
Delaire, Excel, Diodon ou encore Arc-Océan, les PME françaises spécialistes des drones sont partout dans les allées d'Euronaval, car au large, le drone fait bouger les lignes. Surtout, un grand nombre de solutions proposées jusque-là aux industriels trouvent aujourd'hui leur déclinaison militaire. La dualité est la clé du succès, assure Bastien Mancini, PDG de Delaire. Il commercialise par exemple depuis 2 ans le SISAM, un petit drone sous-marin chargé de contrôler l'état des coques des navires, celle des cargos bien sûr, mais aussi celle des frégates.
Il n'est pas très gros, il a 7 moteurs qui lui permettent d'être très maniable, de très bien lutter contre les courants aussi, et c'est un aspect sur lequel on insiste. On ne fait pas des objets de démonstration, on fait vraiment des objets opérationnels avec des caméras qui permettent d'améliorer la vision des systèmes d'éclairage. On peut mettre différentes charges utiles. On en a vendu à la marine, on en a vendu dans le civil. Pour nous, c'est un beau succès. Ouais.
Protéger le trafic maritime, mais aussi les câbles sous-marins, les missions des marines de guerre se multiplient, et dans ce contexte, les drones navals, civilo-militaires, prennent toute leur importance avec leurs solutions innovantes, mais aussi, avantage de taille, leur prix contenu.
Franck Alexandre. Encore des centaines de disparus en Espagne. Les opérations de recherche se concentrent sur les parkings souterrains de la région de Valence, où une morgue se tient prête à accueillir près de 400 victimes. Pour le moment, le bilan des inondations tragiques de la semaine dernière s'établit à 217 morts. Dimanche, des rescapés excédés ont réservé un accueil hostile au roi, à la reine et au premier ministre. Felipe VI, Laetitia et Pedro Sanchez reçus par des jets de boue et des insultes. Tout l'inverse dans les stades de foot. Pancarte de soutien aux Valenciens et minutes de silence dans l'unique match de Liga espagnole ce lundi. Le Celta Vigo l'a emporté 1-0 face à Getafe en Angleterre. Duel de milieu de classement, Brentford s'incline à Fulham 2-1 après avoir mené quasiment tout le match. Et puis, bien aidé par 2 cartons rouges pour leur adversaire du soir, la Lazio Rome gagne 2-1 contre Cagliari en Italie. Les Romains ont ouvert la marque grâce à un but du Sénégalais Boulaye Dia. L'écrivain Kamel Daoud, récompensé du prix Goncourt pour son livre Houri, une fiction sur les massacres de la décennie noire en Algérie entre 1992 et 2002. Un sujet qui a suscité quelques tensions entre le pays natal de l'auteur et la France, ce qui n'a pas empêché le jury de couronner dès le premier tour l'auteur de 54 ans. Catherine Fruchon-Toussaint était à Drouan, le restaurant où le Goncourt a été annoncé.
Sans hésitation, les 10 jurés ont voté à la majorité pour Houri, le 3e roman de Kamel Daoud. Une fiction qui met en scène une jeune Algérienne égorgée en 1999 par des terroristes et qui survit miraculeusement. Une époque taboue en Algérie, voire un sujet de tension. À cet égard, le lauréat a tout de suite en arrivant remercié le courage du jury Goncourt.
Actuellement, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, mettre en valeur un écrivain, un écrit sur la guerre avec des enjeux pareils, c'est quelque chose d'admirable. C'est un prix qui est donné à un écrivain, je ne nie pas, mais c'est aussi, sachant ce que vivent des écrivains de l'autre côté du mur de nos démocraties, c'est un signal fort pour tous les gens qui sont tentés par cette aventure, celle d'écrire et de publier.
Un signal fort pour tous les écrivains dont la parole est menacée. Kamel Daoud en sait quelque chose. Son roman Houri est critiqué en Algérie, son éditeur français interdit, mais l'auteur croit en la circulation de la littérature, même si lui doit vivre en exil.
Oran me manque, l'Algérie me manque, mais je ne pense pas qu'on puisse interdire un livre à notre époque. Le livre circule d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'on interdit un livre réellement ? Je ne le pense pas.
Récompensé pour sa puissance littéraire plus que pour des raisons politiques, Houri de Kamel Daoud sera, avec le Goncourt, traduit dans plus de 30 pays.
Autre prix attribué, le prix Renaudot, le franco-rwandais Gaël Faye l'a remporté avec Jacaranda, publié chez Grasset. Livre qui raconte l'histoire d'un jeune garçon né en France qui, en découvrant le génocide des Tutsis de 1994, décide d'en savoir plus sur ses origines rwandaises en se rendant sur place. Et puis, c'était l'une des dernières légendes de la musique américaine, Quincy Jones, l'ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra, est décédé. Il est décédé à l'âge de 91 ans. Ce lundi, la presse du monde entier a salué l'œuvre unique de Quincy Jones, ce génie musical, trompettiste de jazz, producteur et surtout arrangeur. Il est presque 4h10 ici à Paris, 3h10 en temps universel. Merci d'être à l'écoute de RFI, la radio du monde. Et puis je vous le rappelle, ce titre, bien sûr, nous sommes le mardi 5 novembre 2024. C'est la présidentielle américaine à suivre dans nos prochaines éditions. Merci à vous.